Voilà, ce dernier soir de retraite au Marelles, j'ai été inspirée et aussi quelque part incitée à parler un peu de la joie. Plusieurs personnes ont dit « et la joie dans tout ça » et c'est évident que cette merveilleuse qualité est totalement présente dans nos esprits, nos cœurs, par moments, tout à fait accessible, aussi présente dans l'enseignement du Bouddha, plusieurs expressions de la joie. Et j'ai d'autant été quelque part motivée, inspirée. Quand j'ai vu ce merveilleux bouquet qui ô combien fait plaisir à voir à côté du Bouddha. Donc merci beaucoup pour ce bouquet. La joie, mudita, c'est le mot en pali. Il est magnifique ce mot, mudita. Mudita, c'est un type de joie qui est la joie altruiste ou empathique. Donc, je vais un peu exprimer ce que cette joie signifie. Mais il y a naturellement cette dimension de contemplation et d'expression dans chacun, chacune de nos consciences, de nos cœurs. Cette possibilité, capacité de pouvoir quelque part trouver des sources inépuisables dans des qualités. Des sources inépuisables, infinies. Nous avons un tout petit peu contemplé et pratiqué la bienveillance, c'en est une. Nous avons naturellement été en présence de la douleur, donc nous avons aussi quelque part contemplé la compassion, qui est la deuxième. Et cette joie altruiste est la troisième des qualités qu'il est possible de nourrir, d'alimenter. Donc ce sont à nouveau des qualités que l'on peut voir grandir en nous-mêmes, suivant les circonstances. Elles sont tout à fait accessibles, elles nous viennent de manière tout à fait spontanée. À d'autres moments, eh bien, justement, il faut puiser un petit peu plus. C'est-à-dire vraiment aller quelque part creuser dans notre être et aller à la source pour pouvoir les voir quelque part naître, vivre et surtout demeurer. On les appelle des demeures, ces qualités. C'est-à-dire que ce sont des qualités comme nous avons une demeure, une maison. Et donc, la maison est quelque chose que l'on peut avoir comme repère. C'est un lieu de vie. Et ces demeures sont naturellement des demeures extrêmement fiables. Lorsqu'il y a la présence de la bienveillance, la compassion, la joie altruiste. Et la vie, bien que pleine de malheurs, on le sait, hein, pleine de malheurs. Pleine de malheurs, de tristesse. Voilà, si vous avez vraiment coupé vos téléphones et que vous n'avez pas été quelque part appelé à regarder un petit peu les nouvelles du monde, eh ben, elles sont exactement les mêmes que lorsque vous êtes entré en retraite. Malheureusement, c'est exactement la même chose. Rien de pire. Hein. Donc souvent, on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais en retraite? Rien de pire, mais voilà, toujours un petit peu les mêmes scénarios. De douleur, de malheur dans le monde. Donc, c'est pourquoi il est important de quelque part apprendre aussi qu'il est possible, indépendamment des circonstances de ce monde, à puiser dans notre propre source intérieure, dans notre propre demeure, et à chercher et trouver une joie en nous-mêmes, à pouvoir se réjouir aussi des manifestations, des expressions de bonheur à l'extérieur et naturellement qu'il y en a. Donc, c'était très intéressant de sentir que ces qualités sont inconditionnelles. On les nomme les inconditionnelles, les illimitées. Illimitées dans le sens de leur potentiel, incroyable pour tous les êtres. Voilà ce que ceci signifie, pour tous les êtres, pas uniquement pour mes proches et pour ceux qui forcément font partie de mon environnement, pour tous les êtres, la bienveillance pour tous les êtres, la compassion pour tous les êtres, la joie altruiste pour tous les êtres. Ce sont des souhaits, des aspirations, et puis naturellement, on peut aussi les agir dans notre monde au contact de la vie. Donc, il y a cette dimension d'illimité et il y a aussi cette dimension d'inconditionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des circonstances particulières pour pouvoir les développer. Et ça, c'est important de l'entendre. Parce que très souvent, on se dit, eh ben, je ne mérite pas, non, je ne suis pas assez bien pour, quelque part, nourrir ces qualités. Et donc, c'est important de pouvoir, quelque part, éclairer que c'est inconditionnel. Donc la bienveillance, comme vous avez peut-être pu comprendre, elle se focalise sur le souhait du bien. Souhaiter à soi-même et aux autres le bien, c'est-à-dire vouloir quelque part le bon pour soi-même et pour autrui. La compassion va naturellement dans le sens de pouvoir souhaiter la libération de la souffrance. D'accord? Donc on a un prisme, il y a des facettes. Et vraiment, ce sont des facettes extrêmement proches. Quand il y a de la douleur, ben, c'est la compassion qu'on va naturellement appeler. Et en même temps, c'est cette bienveillance emplie de compassion qui va pouvoir être concernée, et qui va pouvoir alléger, dans le sens de souhaiter vouloir la libération de la souffrance, et pas rester figé, emprisonné dedans, piégé par ce qui se passe. Donc il y a vraiment là des composantes qui sont très proches les unes des autres. Et ces composantes, ben, elles sont des qualités de l'esprit, ce qu'on a appelé les états mentaux, hein, qu'on a vu de manière assez claire et ample, avec amplitude, les émotions difficiles, douloureuses. Et il y a naturellement ces qualités qui sont des qualités tout à fait positives. Donc la joie altruiste, c'est pouvoir se réjouir du bonheur existant, donc des bonnes circonstances d'autrui. Pouvoir se réjouir du positif qui existe en autrui. Donc tout ceci va naturellement être orienté de manière à pouvoir développer ses souhaits, ses qualités. Et puis, les manifester dans le monde. Ce n'est pas simplement des souhaits sur notre coussin de méditation, hein. Avec un peu de chance, on va naturellement avoir la possibilité d'agir, d'avoir vraiment quelque part cette dimension qui devient plus spontanée, certainement plus spontanée, au fil de notre rencontre, alors qu'on est naturellement dans cette disposition qui est une disposition beaucoup plus positive que de rester figé dans nos malheurs, les pièges que l'on rencontre, de l'attachement, de l'aversion. Donc, ces pratiques, ces qualités vont nous aider dans le sens d'un équilibre. C'est déjà ça, c'est extraordinaire. Un équilibre intérieur, même si on sait qu'il y a effectivement circonstances tristes pour nous-mêmes, tristes dans ce monde, y compris, je veux dire, des faits, et des choses qui sont extrêmement douloureuses, on ne ferme pas les yeux. Vous voyez combien c'est incroyable de se dire on ne ferme pas les yeux? Waouh! Ça veut dire qu'il n'y a pas de déni. Il n'y a pas de déni de cette réalité-là, parce qu'on a un équilibre, parce qu'on arrive à faire la part des choses, et surtout qu'on voit de façon beaucoup plus vaste, c'est-à-dire beaucoup plus globale, plutôt que d'être pris par le piège d'un angle. Voir tout le monde et toute la vie d'un certain angle, c'est exactement ceci que les médias nous proposent, hein, l'angle du malheur, l'angle. C'est incroyable, les faits divers, il faut déjà aller les chercher, hein, les faits divers heureux. Donc, il y a vraiment cette incroyable influence qu'on a. Et il faut croire que ça se vend, hein, parce que c'est ça qui nous, qui nous sert. Vraiment, cette incroyable profusion de malheurs et de faits divers qui sont extrêmement durs à voir. Pour ma part, en tout cas, je sais que là, dans mon existence même, je fais vraiment maintenant la part des choses. Jusqu'où je me laisse regarder, influencer, voir, de quelle manière, avec des images, pas d'images, peut-être de la lecture. Voilà, il y a tout un comportement là qui va naturellement nous aider dans le sens de soutenir un équilibre, je crois. Donc peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, hein. On peut se voir demain matin et en parler. Donc c'est bien, il y a aussi une possibilité de quelque part partager les points de vue, parce que ce sont des points de vue, un peu oui, trop. En tout cas, moi, ça me déséquilibre. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a une grande sensibilité qui a naturellement été aussi quelque part pratiquée. Et sensibilité, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir comment on traite cette sensibilité. Comment est-ce qu'on la découvre et comment est-ce qu'on l'explore et comment est-ce qu'on la nourrit. Donc, fermer les yeux, ben, on peut dire que c'est un peu être insensible. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de se frotter à ce qui émerge. Donc, cette profonde compréhension que dans l'existence, il y a effectivement de la souffrance, mais qu'il y a aussi de la joie, qu'il y a aussi du bonheur, qu'il y a aussi des bienfaits. Donc, ça peut nous aider à célébrer la vie. Comme ce petit geste d'une personne qui fait que, waouh, on peut célébrer la beauté et la bonté de la personne qui a pris le soin pour nous tous et toutes de pouvoir contempler ce beau bouquet. Donc c'est des petites choses, dans les petites choses, dans les petits gestes, dans les petites actions, qu'il y a des trésors. On se dit toujours, ah non mais c'est pas assez. Si. C'est suffisant, justement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est les petits gestes, les petites choses sont tout à fait suffisantes. Ah ben voilà que la mouche qui visitait Cécile hier soir. Il faut croire qu'elle aime bien cette place. Hein. bon. Donc ne pas se laisser piéger dans un état d'esprit sombre, contraignant et malheureux. C'est absolument incroyable combien on peut contribuer à cet état de mal-être. Et on a une certaine responsabilité, en réalité, de pouvoir, quelque part, voir comment on y contribue. On a beaucoup parlé de ceci pendant la retraite. Les pensées qui ressassent, les émotions dans lesquelles on peut se noyer. Tout ceci, bien sûr, fait partie de l'exploration, mais se laisser submerger et surtout repartir dans ces vagues, lorsque tout à coup, voilà, on a la tête, on a la sortie de l'eau et tout, puis on se dit, non mais, ah, hier j'étais bien, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, peut-être que j'ai été repêchée, le malheur, l'histoire horrible que je me raconte depuis X temps. C'est possible. Ça a lâché. Ah oui, ça a lâché, c'est cool et tout. Mais est-ce que c'est vraiment parti? Et hop, on va le repêcher. Pour être sûr que c'est vraiment bien parti. Mais c'est comme ça qu'on rattrape l'hameçon. C'est absolument incroyable. On rit parce que c'est quelque chose qu'on fait tous et toutes. Mais c'est formidable de voir qu'on se piège soi-même. Donc... C'est exactement ce qu'enseignait le Bouddha. Il a une phrase absolument extraordinaire qui dit, voilà, on vit avec ce qu'on alimente. On vit, on se nourrit de ce qu'on alimente. Donc c'est évident qu'on se nourrit de l'air, hein, de la terre, du soleil, voilà. Et est-ce qu'on ne se nourrit pas un peu de nos névroses? Est-ce qu'on ne se nourrit pas un peu de, voilà, de nos modes d'être qui font que c'est jamais assez bien, je suis jamais assez bien, voilà. Donc il y a vraiment là une dimension de pouvoir contempler ceci et qu'on n'a pas besoin de repêcher un type d'aversion, une histoire qui nous fait mal et de le voir déjà, c'est extraordinaire. Donc très souvent on parle de la confusion. La confusion ou l'aveuglement, c'est la source du mal-être et c'est qu'en réalité, on ne perçoit pas qu'on a été repêché. Quelque chose qui a été douloureux. Donc voilà, c'est plus là et la vie est plus légère, plus facile à vivre. Waouh, magnifique! Donc cette joie dont on parle ici n'est pas quelque chose que nous devons fabriquer comme si on devait aller la chercher à l'extérieur. Ce sont des qualités qui sont en nous. Une fois qu'on a libéré un petit peu les couches de contraction, de peur, de crainte, d'aversion, de colère, ben, il y a naturellement cette fontaine. J'aime beaucoup l'eau. Et donc, et ces qualités-là ont naturellement des métaphores d'eau. Et la joie, c'est la fontaine d'eau. Je me réjouis de retrouver l'eau. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer. C'est vraiment déjà là. Et elle jaillit, cette source de joie. On dit, ouais, une source de joie qui a jailli. Lorsqu'on laisse un petit peu l'être s'imprégner de nos profondeurs. Donc c'est un épanouissement qui va naturellement émerger au fil du chemin. Et on peut sentir ceci, même quand il y a un tout petit peu plus d'espace, d'ouverture, bien, il y a des petits mouvements comme ça, ou même une petite vibration, hein, cette petite brise fraîche qu'on a eue là, hein, qui nous a, ouh, ça fait du bien, non? Et puis c'est exactement ça, voilà, cette dimension de joie qui fait que ah, on sent qu'il y a une certaine légèreté et qu'on peut laisser quelque part émerger cet état en nous-mêmes quand nous ne sommes pas attachés absolument à pouvoir quelque part vouloir les choses d'une certaine manière. Donc il y a un tout petit texte là d'Ajahn Chah qui dit: dans la pratique, le désir peut être un ami ou un ennemi. Dans la pratique, le désir peut être un ami ou un ennemi. En tant qu'ami, il nous donne envie de pratiquer, de comprendre, de mettre fin à la souffrance et de jouir du bonheur existant. Mais être toujours en train de désirer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vouloir que les choses soient autres que ce qu'elles sont, finit par causer encore plus de souffrance, et c'est alors que le désir peut devenir un ennemi. On le comprend ça, mais c'est la même qualité, ce désir. D'accord ? C'est pas deux qualités différentes, c'est comment elle est appliquée, comment on peut naturellement ici s'en imprégner. Et c'est comment on va l'orienter. C'est l'orienter dans le sens de pouvoir apprécier ce qui est là. Et ce désir attente, ce désir attachement, ce désir qui n'a pas de fin en réalité, eh bien, va naturellement aller dans un sens de devenir un ennemi pour nous-mêmes. Et en plus, il dit, finalement, nous devons apprendre à lâcher tous les désirs, même le désir d'éveil. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être libres et joyeux. Donc ça implique que quelque part, tout est là. Tout est là. Donc la joie, elle a de nombreuses formes d'expression. Elle suscite la vitalité en nous-mêmes. Elle nous donne vraiment beaucoup de vitalité, de vivacité. Elle dissipe la confusion. Et elle a aussi cette extraordinaire capacité de pouvoir nous relier à quelque chose de plaisant. Le Vedana ici est naturellement plaisant, agréable. Donc on va pouvoir sentir qu'il y a une dimension d'agrément, d'appréciation. Ça peut être absolument infime, mais il y a une certaine dimension où on a un certain bien-être et donc on a ce sens de se nourrir de ces qualités-là. C'est encore plus clair que la bienveillance qui souhaite le bonheur. Mais ici, il y a l'appréciation de pouvoir être en présence de quelque chose qui est de la joie, donc c'est présent. Cette joie altruiste, elle est le fait de pouvoir se réjouir. Pouvoir se réjouir. Et c'est incroyable, il n'y a pas très très longtemps, j'ai donné un stage à Montchardon, au mois de mai, sur les quatre Brahmaviharas, ces quatre demeures, qui sont ce qu'on appelle les illimités. Hein. Le dernier est dans l'équanimité. Et puis, il y avait naturellement pas mal de présence, puisque toutes ces qualités, elles sont bâties sur une attention, hein, une attention. Et c'était génial parce que suivant les personnes, il y avait une capacité beaucoup plus grande à pouvoir ressentir soit la bienveillance, soit la compassion, soit la joie. Et puis forcément que on ressentait au fil des rencontres, un petit peu avec les rencontres dans les entretiens, que la joie était presque la plus difficile pour la majorité des personnes. Et quelques-unes tout à coup, ah mais la joie, mais c'est tellement simple pour moi, je me réjouis tellement pour les autres. C'est naturel, c'est spontané. Et vous voyez qu'on est très différents les uns des autres. Donc ça donne déjà un signal. Tiens, est-ce que la bienveillance est plus simple? Est-ce que la joie, elles se rejoignent ces qualités? Mais le fait de pouvoir quelque part s'extirper de sa notion de moi-je, moi-je, voilà, de ma petite personne, eh bien, fait qu'il y a une ouverture, une capacité de pouvoir aller au contact et se réjouir pour autrui. C'est ça, cette joie altruiste. C'est extraordinaire quand on arrive à ne pas être envieux ou jaloux. Parce que c'est ça que ça contrecarre. Cette joie altruiste est l'antidote de la jalousie et de l'envie. Envie, être jaloux. Donc on voit bien que cette qualité-là, elle nous aide tellement à comprendre l'interdépendance des circonstances de la vie qu'on a tous par moments des joies et des peines. On a tous par moments des bonheurs et des malheurs. Du succès et de l'échec. Des gains et des pertes. C'est la vie. C'est la vie. Donc, dans son ensemble, quand par moment il peut y avoir des difficultés, eh bien, de penser, en tout cas pour moi, à la situation favorable d'une autre personne m'élève. Et c'est absolument génial. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué beaucoup cette qualité. C'est pas juste comme ça, hein. C'est parce que j'ai passé du temps, mais beaucoup de temps. Comme on peut apprendre à marcher. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation. C'est absolument incroyable le pouvoir de l'esprit qui est habile, qui est capable de se transformer. Donc je vous donne vraiment toute ma confiance, vraiment. Parce que c'est extraordinaire, donc c'est de dire « Ah, mais c'est tellement génial, j'aimerais bien être Patricia. » Non, Patricia a beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué, passé des heures et des heures et des heures sur son coussin. Et ce n'est pas une baguette magique, c'est vraiment les heures de pratique. Et puis voilà, tant mieux, parce que j'ai l'âge que j'ai. Donc, c'est bien que, voilà, on va dire... Voilà, je ne suis pas une première jeunesse, donc c'est bien qu'il y ait ces ressources et que ça puisse quelque part égayer l'être que je suis. Donc c'est une qualité qui trouve son sens dans le bien-être de son prochain. Le bien-être de son prochain. Donc là, il y a quelque chose de très très important parce que notre mode de comportement social, eh bien, malheureusement, n'est pas beaucoup, on va dire, relié à cet aspect-là. Je veux dire, encore l'autre jour, je voyais un enfant, mais il faut que je sois le meilleur. Waouh, c'est impressionnant. Donc, dans le système d'éducation, il y a encore cette dimension de devoir être le meilleur, la compétition. Ça nous pousse à toujours vouloir avidement, quelque part, être mieux qu'eux. Et donc, ça nous nuit, et ça nuit à la société, c'est évident. Donc, cette joie, elle a vraiment un impact absolument extraordinaire. Et donc, c'est un antidote totalement puissant par rapport à l'envie et la jalousie. Donc, on peut se réjouir des qualités d'une autre personne, des vertus, des actions, des possessions, des réussites. Et plus il y en a, plus le bonheur peut s'amplifier. Donc, ça change quelque part le mode intérieur. Maintenant, il y a deux types. Donc, l'envie et la jalousie sont donc appelés ces états mentaux opposés. Et puis, ils fichent l'esprit. Sur quoi? Sur soi-même. Voilà, c'est exactement ça. Hein, c'est quand voilà, c'est figé sur soi-même. L'égocentrisme, c'est exactement ça. Hein, centré sur soi, ben, ça nous empêche à ce moment-là de pouvoir quelque part éprouver une joie pour autrui. Mais on ne s'arrête pas là. On se rend compte que c'est là où on va peut-être débuter. Et moi, je me souviens d'avoir démarré là. Oh, c'est impossible. Et j'étais vraiment très figée. Je me disais, mais déjà, la croyance, la cristallisation dans une croyance que c'est impossible d'imaginer dans son cœur, hein, pas au niveau mental, parce qu'on peut s'imaginer l'idée, la notion, ok, oui, je peux... Mais le vivre et puis ressentir que c'est vraiment une ouverture du cœur, un espace de joie intérieure, bah, ça, c'est pas évident. Donc, ça demande vraiment de la pratique. L'envie, elle est fondée sur le désir de vouloir ce que l'autre a. D'accord ? Donc, c'est exactement ça, l'envie. C'est ce que l'autre possède. Voilà. Donc, la focalisation, si vous voulez, elle est plus sur l'objet, la chose. Moi aussi, je veux ça. Et la jalousie, c'est fondée sur l'aversion. Ça veut dire ne pas vouloir que l'autre possède ce que l'on n'a pas nous-mêmes. Donc vous pouvez bien comprendre que c'est plus douloureux de sentir quelque part la jalousie que l'envie qui fait que du désir. Ah ouais, il y a encore ce mouvement-là, mais j'aimerais bien avoir... Voilà. Enlever à l'autre ce qu'on n'a pas nous-mêmes, bah, c'est beaucoup plus douloureux comme sentiment, comme sensation. Et on peut vraiment distinguer les deux. C'est extraordinaire. Par moments, ça peut être complètement entremêlé, cette affaire-là. J'ai l'envie et en même temps, il y a la jalousie. Je veux pas. Voilà. Et pourquoi elle, pourquoi pas moi voilà. Donc, cette focalisation, elle peut être placée et sur l'objet et sur la personne. Quand c'est entremêlé des deux. Donc, c'est intéressant parce qu'au-dessous, qu'est-ce qu'on va sentir ? Ben, de l'aversion ou du désir, désir-attachement. Voilà. Il y a quelque part une frustration. Et puis, cette frustration, elle peut naturellement aussi s'exprimer de façon beaucoup plus violente, dans le sens de l'agressivité, par exemple. L'agressivité de certaines personnes qui peuvent nous jalouser, ça peut aussi aller dans ce sens, hein. Eh bien... il y a quelque part un aspect de vouloir détruire les circonstances de l'autre. Donc, ça peut être extrêmement douloureux. Maintenant, ces méthodes pour ouvrir l'esprit à la joie se trouvent dans l'enseignement du Bouddha. L'un des moyens les plus sûrs, c'est cette pratique de la méditation. En tout cas, c'est comme ceci, dans ce contexte-là, qu'on peut naturellement pratiquer. Les phrases sont très simples. Elles sont très simples et elles peuvent être pratiquées en toutes circonstances. Il n'y a pas très longtemps, c'est incroyable, je me trouvais effectivement dans un lieu et puis il y avait une situation et plutôt que d'être justement dans cette situation de désir, d'envie, d'avoir l'autre, immédiatement, puisse ton bonheur continuer, puisse tes bonnes circonstances grandir. C'est ça la phrase. Oui. Donc il y a des phrases qui peuvent nous aider. Et ces phrases, il ne s'agit pas simplement de se les dire, mais de sentir, de donner tout l'espace pour dire « Waouh, je respire et je puis me réjouir du bonheur d'autrui. » Je suis contente que tu sois contente. Ton bonheur me réjouit. Vous pouvez fabriquer vos phrases, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, il y a cet aspect-là de pouvoir naturellement choisir une situation, une personne qui, pour nous, semble favorable et qu'on va naturellement là pratiquer. Tout simplement, pratiquer chez soi. Et la pratique de la joie nous aide au quotidien. C'est une pratique, c'est temps que je fais tous les jours. Tous les jours. Ça peut être, voilà, bon, on en parlera un petit peu demain matin, hein, Vipassana un peu, puis voilà, il y a des dizaines de minutes où je choisis une de ces qualités et puis je vais naturellement. Ou alors, si je ne l'ai pas fait, ben, j'ai pas le temps et tout, voilà, dans mon lit. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai déjà dit ça, hein, que, et dans mon lit, voilà, je suis là, et waouh, je pense à une situation. Mais c'est comme ça qu'on nourrit son jardin intérieur. C'est pas magique, hein. Je veux dire, il y a une disposition d'esprit et on l'encourage, voilà. C'est très facile pour certaines personnes de prendre un enfant ou un petit animal plutôt qu'une personne. Parce que la joie, ben, elle est spontanée quand il y a un enfant qui est petit. Et donc, ça éveille la joie en nous. Donc voilà, ça, c'est absolument magnifique. Maintenant, il y a aussi la possibilité, non pas la joie altruiste, mais de pouvoir éprouver de la joie par rapport à ses qualités. Ouh là là. Ouh là là. Non, j'ai que des défauts. Voilà. Dans ma vie, de toute façon, je fais rien du tout. Voilà, ça va mal, voilà. Je vois les manques. C'est incroyable combien on est orienté à voir ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui fait défaut, ce qui n'est pas juste. Voilà. On est quelque part biberonné à ceci. C'est complètement fou, mais ça s'appelle une vue erronée dans l'enseignement. Une vision erronée qui n'est pas juste. Elle est tronquée. On ne voit pas l'ensemble. C'est complètement fou de se figer à cet endroit. Donc c'est une vision incomplète. Incomplète. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, on se leurre. Et non seulement on se leurre, mais on perd la possibilité, la capacité de voir les qualités. Tout simplement. C'est logique ce que je suis en train de dire, non ? Voilà. Donc, cette tendance est tellement forte dans beaucoup de personnes, donc il est nécessaire d'avoir une pratique qui nous aide à contempler nos qualités. Notre patience. Vous avez beaucoup de qualités, vous ne vous rendez pas compte. Hein. Le fait que vous ayez été ici une semaine, la patience en est une. Persévérance, une autre qualité. Ben ouais, c'est énorme. Ça s'appelle les paramis. La générosité, vous l'avez pratiquée, tous. Cécile en a parlé hier soir. L'éthique. Tout ça, ce sont des qualités. Ce n'est pas juste abstrait. On les a pratiquées. Ce sont des cadeaux. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir, quelque part, voir ce qui est beau. Et c'est exactement ce que nomme le Bouddha. Permettre de voir ses qualités, c'est de pouvoir voir le bon en soi-même. Le fait de voir le bon en soi-même, ben, ça nous aide à voir le bon en autrui, de façon beaucoup plus spontanée. Spontanément parce que, quelque part, on le ressent. Ah ouais! Et ça peut être des actions, ça peut être des gestes, ça peut être voilà, plein d'actes de générosité, plein d'actes de compassion, plein d'actes des pensées même aussi. Voilà. Donc, fondamentalement, ce bonheur, il n'est pas basé sur l'extérieur, mais sur nos propres qualités. Donc, l'état mental que l'on va favoriser. Et c'est vraiment quelque chose que l'on peut nourrir en toutes circonstances. Ça nous permet de beaucoup mieux nous situer dans les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Les bas, ça va nous aider, c'est évident. Et les hauts, on va les apprécier. Donc, on est plus vivant dans ce sens-là. Vous voyez ? Et donc, quelque part, la compassion et la joie, ça s'équilibre, ces deux. La compassion, c'est cette libération de la souffrance, souhaiter être libre de la souffrance. Si on a la compassion véritable, il y a de l'ouverture et de la légèreté. C'est extraordinaire, on n'est pas du tout noyé. Dans ces enseignements, j'aurais pu donner un enseignement sur la compassion, j'ai choisi la joie. Voilà. Je me suis dit non, la légèreté un peu quand même. Voilà. La compassion, ce n'est pas la pitié. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Donc la compassion, ben, elle prend en considération, oui, il y a de la douleur, absolument, mais il y a une capacité de pouvoir s'ouvrir à la douleur. Et la joie va nous permettre de ne pas être complètement pris par la douleur, empêcher la douleur, et en même temps, la joie, c'est pas quelque chose, ah ouais, tout le monde est beau, gentil, c'est merveilleux, on a une espèce de naïveté, un sentiment complètement factice, artificiel, superficiel. Non, il y a une considération de l'ensemble. Voilà. Donc, nous pouvons libérer l'esprit de la saisie, de l'aversion, de l'ignorance, en permettant à ces qualités de se nourrir, de rayonner. Et dans notre pratique au quotidien, à la maison, c'est vraiment absolument génial de pouvoir les nourrir, les cultiver, que vous soyez sur un coussin ou pas. Ça peut être n'importe où. Dans un train, n'importe où. File d'attente, dans votre voiture, n'importe où. Donc on a vraiment cette possibilité. Et la neuroscience nous dit aujourd'hui, elle le démontre, que ça active les zones du cerveau. Si c'est pas top, ça. Et donc, les émotions positives vont nous aider et que ça change exactement, vraiment, quelque part, notre perspective et que ça nous aide vraiment à pouvoir nourrir. C'est incroyable que la science rejoigne la spiritualité. Voilà. Donc, cette joie apporte du contentement, de la satisfaction. Ne pas rester dans un état d'esprit aversif. Il y a une forme de guérison. En tout cas, pour moi, ça a été une forme de guérison. Vraiment de la médecine. D'ailleurs, on dit que le Bouddha, c'est un vrai médecin. Et c'est vrai, ça a été extrêmement clair. Quand j'ai commencé, bon, ça a été très plat pendant longtemps, hein, je veux dire. Qu'est-ce que je fais là ? Rien. Et puis, la persévérance, waouh ! C'est quand même quelque chose. Ouais. Si j'ai une qualité, je pense que c'est ça. Persévérance, détermination. Je peux vous la partager. Mais c'est pour ça que je peux dire que oui, ça marche. Ça marche. Détermination, persévérance. Voilà. Douce persévérance. Voilà, donc, il y a juste encore un petit texte. Deux types de personnes rares dans ce monde, dit le Bouddha. La personne qui est la première à faire une gentillesse. La première à faire une gentillesse. C'est-à-dire, ah ouais, voilà, je peux aider ici. Et la deuxième personne, c'est celle qui est reconnaissante pour la gentillesse qui a été faite. Donc, on a vraiment là le merveilleux assemblage de la générosité et de la gratitude. C'est ça. Donc, le Bouddha, il nous dit très clairement, chérissez ces personnes. Elles sont rares. C'est vraiment chouette de lire les sutras. Vous savez, quand ils sont bien traduits. Alors, bon, moi je les lis en anglais. Mais il nous conseille, chérissez ces personnes lorsque vous les trouvez, car elles sont rares. Et en même temps, il nous dit, encore plus rare et encore plus merveilleux, c'est que vous pouvez devenir cette personne. Donc, chérissez-vous vous-même. Le fait de se chérir, c'est difficile. Voilà. Et donc, il demandait souvent aux moines, et on a un sutra là qui disait, il disait, emmenez votre natte de paille dans la forêt. Asseyez-vous au pied d'un arbre. On n'a pas fait ça. Oui, on l'a fait. Et commencez à réjouir votre cœur en réfléchissant aux circonstances heureuses qui vous ont amené à contempler votre intériorité. Ça vous motivera. Cette capacité de rechercher la liberté intérieure par la compréhension du Dharma est précieuse. Donc chérissez le Dharma. C'est un très joli sutra. Donc cette dimension de reconnaissance s'intitule Katanuta et c'est cette gratitude, la reconnaissance, la gratitude qui encourage encore une appréciation plus profonde de cette nature interdépendante de la vie. La générosité et la gratitude ensemble, elles vont de pair. Et ces qualités-là vont naturellement soutenir la clarté de l'esprit et nous permettre de contempler l'interconnexion entre les êtres. Il y a vraiment cette dimension relationnelle qui est assez présente dans les sutras. Alors il y a aussi des sutras, c'est voilà, quitte le monde, sois un ermite, et voilà, va tout seul, chemine tout seul. Mais il y a aussi beaucoup de sutras où on sent très bien qu'il y a une communauté, qu'on s'entraide, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a vraiment énormément d'appréciation du fait de pouvoir se soutenir les uns les autres. Dans notre histoire personnelle, ça peut avoir quelque part une importance. Donc c'est incroyable combien, même dans cette période tellement troublée, de se rappeler qu'on peut quelque part jalonner les défis, avoir des incertitudes, qu'il y a des déceptions, mais que s'il y a des qualités qui sont bonnes à prendre, pourquoi les négliger? Pourquoi ne pas, quelque part, s'en servir, les apprécier? Ben, je crois que, vraiment, c'est intéressant, parce qu'on est figé au niveau de ce qui manque. On est figé au niveau du désir attachement, du désir attente, de l'aversion. Et c'est absolument essentiel de voir par moment que l'esprit peut être bloqué en mode, ce que moi j'appelle maintenant mode, je m'inclus là, hein, mode résolution de problème. Voilà. Donc le mode résolution de problème, eh ben, il va remarquer que ce qui ne fonctionne pas. Et donc il perd quelque part la perspective. Donc c'est super important de pouvoir quelque part vous questionner dans le sens de qu'est-ce qu'on attend de la vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment, et de pouvoir recevoir de la gratitude dans le sens des petites choses, la nourriture sur la table, un bouquet de fleurs, la lumière du soleil, la brise fraîche, la vue d'une belle biche, vous en avez vu? Quelle merveille! Waouh! Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi? C'est rare! C'est rare! Chevreuil. Voilà. Et même l'expression de la respiration, ici et maintenant. Oh, combien appréciable! Vivre pleinement. justement cette expérience. Donc cette gratitude de respirer, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Un jour, ben, voilà, ça va s'arrêter. Hein. Donc tranquillement, cette gratitude qui peut aussi considérer nos propres bienfaits. À la fin d'une retraite, nous pouvons contempler, si vous le voulez, je vais m'arrêter là, et dans ce soir, demain matin, vraiment avoir cette gratitude pour vous-même, pour toute l'énergie, tout le courage, tout ce que vous avez pu mettre dans cette pratique où on sait que c'est pas facile, qu'il y a plein de moments où c'est oh, rêve, et qu'on est encore là. Donc cet état de gratitude qui peut contempler les bienfaits de notre méditation, qui peut avoir un sentiment d'appréciation, et qui fait aussi qu'on peut prendre en compte que par moment, je suis sûre, tout le monde a pu ressentir un peu plus d'espace, un peu plus de calme, un peu plus de légèreté, un peu plus de compréhension par rapport à un mode difficile. Et donc, qu'on peut quelque part sentir cette capacité, se réjouir de ces bonnes circonstances, qui sont, comme on l'a dit, comme a dit Cécile hier soir, rare. Voilà, je vais terminer avec un tout petit texte très bref, très court, de Belinda Cannon dans son joli livre qui s'intitule « L'émerveillement ». Elle dit « Parfois le silence règne, nous sommes paisibles et concentrés. La lumière est belle et notre regard vigilant. Alors l'émerveillement nous saisit. D'où vient ce sentiment fugitif ? Il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent, c'est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde. Soudain, on vit pleinement, ici et maintenant, dans le pur présent. Cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre et de la faculté de la joie. Le risque de l'enténébrement a frappé notre époque, mais il faut d'autant plus persister à évoquer l'émerveillement. Car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et susceptible d'accueillir les plaisirs en même temps que le labeur, sont la marque de notre conception de l'existence. Ici est notre séjour, ici est notre demeure. Y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme. Un très beau texte qui a tout son sens aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention.